Gaëlle Rodeville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale du Festival Musique et Cinéma à Marseille. C'est pour bientôt, du 24 au 29 mars. Bienvenue sur la radio du cinéma. Votre festival nous tient
Merci.
À cœur puisque nous diffusons des musiques de films, des chansons 24 heures sur 24. Parlons de l'évolution de ce festival à Marseille. On a un sentiment de prise de vitesse là depuis quelques années.
Oui, je pense que c'est le cas parce qu'en fait, Marseille offre ce terrain de jeu-là. C'est-à-dire qu'on a une chance inouïe, c'est d'être à Marseille et que c'est une énorme ville avec, finalement, c'est une ville très, très culturelle et donc qui nous accueille bien, qui a les infrastructures pour qu'on puisse se développer. Donc, on est en haut de la Canebière au cinéma Arplex. On occupe pendant la semaine du festival, la semaine complète du 24 au 29 mars, on occupe le cinéma dans son intégralité, hein, les sept salles. Et puis, on est aussi au Gyptis, on est aussi au conservatoire Pierre Barbizet. Voilà, on rayonne de plus en plus, mais c'est vrai que ce qui nous tenait à cœur, c'était de pouvoir aussi accueillir sur un vrai QG et de créer un vrai lieu, un peu une bulle culturelle. Et donc, on aménage la Canebière, on a vraiment... Et d'être au centre-ville, en fait. Ça, c'était essentiel d'être au cœur de ville parce qu'on a sur ces quartiers-là des quartiers très populaires et c'était très important pour nous qu'on puisse croiser tous les publics au sein de ce festival.
Vous parlez de rayonnement, effectivement, la renommée et puis, bien évidemment, le public vient de bien au-delà de Marseille. Maintenant.
Oui, bien sûr. C'est un festival qui a une programmation internationale, donc il y a des invités internationaux. Et on a évidemment Marseille, le territoire, la région sud, mais on a énormément de personnes qui viennent de l'étranger, et aussi bien des réalisateurs, des compositeurs, mais également des professionnels, et puis même du public, en fait, qui aujourd'hui, c'est le seul festival qui travaille vraiment dans l'intégralité de sa programmation sur la question de la musique à l'image. Donc, en fait, c'est devenu un festival un peu référent, et c'est devenu la terre d'accueil pour tous les compositeurs de musique de film, qu'il soit en France ou dans le monde. Donc, du coup, tout ça génère en fait aussi le public, et ça génère un public différent qui vient de partout.
Alors, c'est un festival, j'allais dire, traditionnel, avec compétition, projection, marché, il y a tout ça ?
Il y a absolument tout ça, oui. C'est un festival, alors, effectivement, qui fait à la fois la promotion de la jeune création cinématographique qu'on associe à la création musicale pour l'image, avec une compétition de court-métrage, une compétition de long-métrage. C'est un festival qui aussi souhaite amener des rencontres un peu exceptionnelles et privilégiées entre le public et ses invités. Donc, il y a énormément il accueille des festivals, il accueille des écoles étrangères, il accueille des grands noms du cinéma et de la musique de film. Et donc, on a à peu près 300 films, entre 350 à 380 films qui sont projetés pendant la semaine, courts et longs confondus, avec plus de 130 séances sur 5 jours. Donc, voilà, c'est très dense.
On arrive à connaître l'impact d'un festival petit à petit au prestige de ses invités. C'est le cas à Marseille ?
Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des invités de marque. Et donc, cette année, ce sera Boris Lochkine, que l'on a entendu très souvent parler actuellement avec l'histoire de Suleiman, qui était au César sur 8 nominations. On a Justine Pou, qui est une des plus grandes compositrices internationales, qui a fait notamment Eyes Wide Shut. On a Théo Verson, un très grand compositeur de musique de film, Jeannerie, réalisatrice, etc. Donc oui, plus on avance dans l'histoire du festival, plus on aura des invités prestigieux.
La musique de film, c'est un bon moyen de faire découvrir la musique instrumentale, pour ne pas dire classique, au jeune public ?
Oui, c'est un bon moyen. Après, est-ce que les jeunes... de toute façon, la musique de film, aujourd'hui, elle est de plus en plus électro, d'ailleurs, mais ça n'empêche que l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, dans la création, quelle qu'elle soit, on mêle toutes les disciplines. Donc, ce qui est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, je pense que le meilleur moyen pour une musique de film d'intéresser les jeunes, c'est qu'elle puisse à la fois avoir un côté très électro, rap, hip-hop, etc., mais qu'elle puisse faire appel à la musique classique dans la création. Et là on commence. C'est quand on croise le genre musical qu'on commence à intéresser les jeunes plus, à mon sens. Alors peut-être est-ce que j'ai raison ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, à mon sens, c'est la musique un peu plus populaire qui est aussi utilisée dans le cinéma, mais qui aussi utilise le classique, qui va amener à ce que ça suscite la curiosité des jeunes. Mais de toute façon, quel que soit... l'art est nécessaire pour tout, en fait, pour éveiller la curiosité des jeunes. Et c'est vrai qu'il faut toujours passer par quelque chose dont ils sont sensibles pour les amener à autre chose, quoi. Mais comme le public lambda, finalement.
C'est compliqué d'établir une sélection pour, qui est plutôt basée sur la musique des films.
Oui, c'est compliqué parce que la musique de film est le parent pauvre du cinéma. Hein. Le compositeur et la compositrice sont la troisième auteur et autrice d'un film. Troisième, ça veut dire qu'en fait, il y a le réalisateur, le scénariste, et après, il y a la compositeur et compositrice. Or, vous avez dû voir, comme tous les éditeurs qui nous écoutent, qu'en fait, la musique de film arrive à la fin d'un générique. En fait, on appelle un compositeur de musique de film à partir du moment où une compositrice, à partir du moment où on a financièrement, il nous reste encore de l'argent sur un budget de film. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le parent pauvre. C'est vraiment la dernière personne qu'on va souvent appeler, sauf dans le cinéma américain où là, il y a un rapport avec la musique de film qui est complètement différent. Mais voilà, oui, c'est effectivement... Puis c'est compliqué parce que il faut aussi avoir pouvoir juger aussi. Est-ce que c'est une bonne musique de film? Est-ce qu'il y a trop de musique? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça porte le film? Est-ce que ça élève le film? C'est plaisant de travailler sur ces questions-là.
Dernière question pratique, Gaëlle Rodeville. Il est prudent de réserver certaines soirées. Comment ça se passe au niveau de... Pour y aller ou pas, quoi.
Non, en fait, la programmation est vraiment géniale. Au-delà des films, et aussi les concerts, les ciné-concerts, il y a tout ce qui touche sur la question de la création musicale. Et en fait, l'idéal, c'est de pas trop tarder à aller sur le site internet du festival. C'est musique-cinéma.com, musique avec un C en anglais, ou simplement vous marquez musique et cinéma sur Google et vous arriverez sur le site. Et là, il y a la billetterie qui est ouverte et vous pouvez réserver vos billets ou prendre un pass. Juste pour information, les billets, c'est entre 4 et 5 euros, en tout cas pour le public lambda. Tarif réduit, 4 euros. Plein tarif, c'est 5 euros. Pour les enfants, les scolaires, les jeunes familles, et puis donc pour les séances familles, c'est 2 euros pour les enfants. Et un pass festival, c'est 35 euros plein tarif, et c'est 25 euros à tarif réduit, et 15 euros pour les étudiants, en sachant qu'on propose 130 séances de cinéma. Donc voilà, tout est fait pour que tout le monde puisse aller à ce festival, accéder et passer la porte des salles pour découvrir des œuvres, découvrir des artistes, et passer un moment joyeux, et on en a beaucoup besoin en ce moment.
Merci beaucoup, Gaëlle Rodeville.
Merci à vous, merci beaucoup, au revoir.